Haïti et Amérique. Avec vous, Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 9h10 à Port-au-Prince. Il aurait dû se tenir avant-hier. Le référendum constitutionnel en Haïti aura lieu fin septembre en principe. Nouveau calendrier électoral dévoilé hier. On en parle avec Godson Pierre. Le Mexique, prêt à légaliser le cannabis récréatif. Un pas important vient d'être franchi. Nous serons aussi au pied du Machu Picchu au Pérou où se poseront bientôt de gros avions. Un projet d'aéroport international inquiète les défenseurs de l'environnement. Et puis dans le journal de la première, nous irons à la rencontre de Gabriel Serville, grand vainqueur des élections territoriale ce dimanche en Guyane, donc Serge Massot.
Exactement, notre correspondant Guyane l'a rencontré dans sa permanence parlementaire au lendemain de sa victoire.
A tout à l'heure Serge, et bienvenue à tous.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Un triple scrutin sur une seule journée de vote, le défi est de taille. Le Conseil électoral provisoire haïtien a donc dévoilé hier son nouveau calendrier électoral. On en parle avec vous, Godson Pierre, rédacteur en chef du site Alter Press en ligne. Avec nous, de Port-au-Prince, bonjour Godson.
Bonjour Michael.
Prévu en avril, puis reporté à la fin de ce mois de juin, finalement le référendum constitutionnel aura donc lieu le 26 septembre prochain, en même temps que le premier tour des élections présidentielles et législatives.
On ajoute que selon ce calendrier, le deuxième tour des élections législatives et présidentielles aura lieu le 21 novembre et les résultats définitifs seront connus le 7 décembre. Quant aux élections municipales et locales, elles devront se tenir le 16 janvier et leurs résultats communiqués le 5 février.
Compte tenu de la situation que traverse actuellement Haïti, Godson, est-ce que la tenue simultanée de ces élections paraît tout simplement envisageable?
D'abord, le CEP avait dû ajourner le 7 juin dernier la tenue du référendum préalablement fixé au 27 juin. Décision adoptée à cause de la recrudescence de la crise sanitaire de COVID-19, le CEP n'avait évidemment pas mentionné le rejet du processus jugé inconstitutionnel et illégal par la plupart des secteurs du pays. Sur la sécurité, eh bien, elle s'est sérieusement dégradée ces dernières semaines et les gangs continuent d'imposer violemment leurs lois dans divers quartiers de la capitale. Les nouvelles violences ont fait, selon des chiffres conservateurs, 50 morts et plus de 10 000 déplacés. Plusieurs partis et regroupements au niveau de la politique, parmi ces partis et regroupements, la direction politique de l'opposition s'inquiète de la détérioration accélérée du climat d'insécurité et encourage désormais, dans une nouvelle prise de position, un processus de médiation indirecte visant à trouver un accord politique et une solution durable qui respecte la Constitution.
Et face à tout cela, Godson, l'Organisation des États américains propose un changement de gouvernement et du Conseil électoral provisoire.
Dans son rapport, en effet, qui sera présenté officiellement demain, la mission propose la désignation rapide d'un premier ministre et d'un cabinet ministériel qui auront la confiance du peuple haïtien, lit-on dans ce rapport, des mesures urgentes pour rétablir un climat de sécurité conformément aux obligations en matière de droits de la personne et enfin la nomination de nouveaux membres au Conseil électoral afin de garantir que le peuple haïtien ait confiance en cette institution essentielle et que des élections locales, législatives et présidentielles aient lieu cette année.
Enfin, terminons par un autre sujet qui fait la une aussi d'Alter Press, le débat sur la privatisation des vaccins contre le Covid.
Eh bien, nous notons des prises de position issues du secteur de la santé et de la société civile suite à l'autorisation donnée par les autorités sanitaires pour l'importation de vaccins par le secteur privé. L'Association des pharmaciens d'Haïti et l'Organisation des citoyennes et citoyens pour une nouvelle Haïti qualifient d'irresponsable cette décision. Pour l'OCNH, par exemple, une telle décision expose les Haïtiens au risque de payer à prix fort de faux vaccins vu que l'État n'a jamais pu protéger la population efficacement contre les faux médicaments, ni contrôler réellement ceux qui circulent sur le territoire haïtien.
Godson Pierre, rédacteur en chef d'Alter Press, merci. Cette vague de Covid à laquelle sont confrontées les structures de santé haïtiennes. Et pour la première fois, ce mardi, depuis 15 ans, les portes du centre d'urgence de Médecins sans frontières de Martissant sont fermées. On l'évoquait hier, l'organisation a décidé de suspendre ses activités pour une semaine face à la violence des gangs dans ce quartier de l'ouest de la capitale. La ligne rouge a été franchie après les tirs que le centre a essuyé ce week-end, comme le déplore la chef de mission de MSF, Alessandra Giudicendrea.
On a décidé de suspendre les activités pour faire comprendre à tout le monde, pas seulement à la communauté de Martissant, mais de manière générale, que assurer les services qu'on offre à la population est un défi quotidien et qu'à un moment donné, on se retrouve à réfléchir entre la volonté de rester pour la population et la sécurité de notre staff. Et on ne veut pas être mis face à ce dilemme. Notre message veut être vraiment clair. On quitte la structure pour une semaine. On s'attend de trouver la structure intacte et on met notre staff en sécurité. On a marqué la ligne rouge. On ne touche pas aux structures de santé. On ne touche pas aux ambulances. On ne touche pas au personnel soignant.
Des propos recueillis à Port-au-Prince par notre correspondante Amélie Baron.
RFI. The World's Voices.
Pour la deuxième fois hier à Surfside, aux États-Unis, devant l'immense amas de débris qui a remplacé la Champlain Tower qui s'est effondrée la semaine dernière, tout près de Miami, les proches des victimes se sont retrouvés pour une veillée. 150 personnes manquent toujours à l'appel, mais pour leurs proches, il ne faut pas perdre espoir.
I'm not going to give up hope because it's happened before. I've seen it happen in this country, in this country, in that country.
Ce jeune homme que l'on entend là est à la recherche de deux de ses amis toujours disparus et il raconte qu'il n'est pas question de ne plus y croire. C'est déjà arrivé, dit-il, dans ce pays et dans d'autres que l'on retrouve ainsi des survivants, même autant de temps après. Harim Lippold, bonjour.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Officiellement, pour le moment, 11 morts.
Oui, selon la maire du comté de Miami-Dade, citée par le Miami Herald, les secouristes ont fait d'énormes progrès sur le site de la catastrophe. Presque 400 personnes, c'est déjà énorme, y travaillent sans relâche pour retrouver d'autres victimes. D'après le Miami Herald, c'est la plus grande opération de secours dans l'histoire de la Floride, si l'on ne compte pas celle mise en place après les dégâts provoqués par les ouragans.
Et pendant que les recherches se poursuivent, donc, Harim, les autorités, elles, tentent de comprendre les raisons de cet effondrement.
Oui, un rapport de 2018 avait déjà noté des dommages structurels majeurs sur le bâtiment, ainsi que des fissures dans son sous-sol. Dans une lettre envoyée début avril et à laquelle le journal USA Today a eu accès, le président du syndicat des copropriétaires alerte sur ces fissures au sous-sol qui, estime-t-il, ont empiré. Selon lui, les habitants de l'immeuble auraient été réticents pour lancer les travaux nécessaires pour réparer la structure qui aurait coûté plusieurs millions de dollars.
À l'autre bout du pays, Harim, la Californie frappée comme une bonne partie de l'Ouest américain par une sécheresse historique, c'est aussi à la une de la presse.
Oui, la Californie qui découvre une denrée de plus en plus rare, l'eau, écrit le New York Times. Une situation qui va transformer la production agricole de cet État considéré comme la réserve de fruits des États-Unis. Certains fermiers sont en train de tourner le dos aux plantations. Le journaliste a rencontré l'un d'entre eux qui a compris qu'il peut gagner plus d'argent en vendant de l'eau qu'en cultivant du riz pour les restaurants à sushi. D'autres transforment leurs champs d'amandes en parcs de panneaux solaires. Le climat de plus en plus sec va détruire une grande partie de l'agriculture californienne dans les 20 prochaines années, écrit le New York Times, avec des conséquences importantes, évidemment, pour l'approvisionnement en fruits pour le reste du pays.
Radio Francia Internationale. Las voces del mundo.
Avant de poursuivre ensemble, Harim, c'est Camille Marigot qui nous a rejoint pour évoquer ce pas que s'apprête à franchir le Mexique. Camille, après l'usage thérapeutique, les Mexicains adultes pourraient bientôt avoir droit au cannabis récréatif. Le président de la Cour suprême a donné son feu vert. Tout n'est pas encore fait, toutefois.
Non, parce que cette décision n'a pas de valeur législative. Elle intervient justement en plein blocage au Congrès, la Chambre des députés et le Sénat n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur un tel texte de loi. Une paralysie d'ailleurs dénoncée par la Cour suprême qui renvoie la balle dans le camp des élus. Donc ce vote de la plus haute instance judiciaire reste tout de même un signal positif aux yeux de ceux qui militent pour la légalisation, dont certains estiment qu'elle pourrait porter un coup sévère au narcotrafic. Mais beaucoup regrettent que la Cour ne se soit pas prononcée en faveur de la commercialisation de la marijuana. Selon des estimations récentes, sa vente pourrait rapporter plus de 20 milliards de dollars en 4 ans au Mexique, deuxième producteur au monde.
Et en tout cas, si le Congrès adopte cette loi, le Mexique deviendrait alors le 3 troisième pays du continent ainsi à légaliser le cannabis récréatif après l'Uruguay et le Canada. Merci beaucoup Camille. On appelle ça à travers le monde le mois des fiertés. Au Brésil, c'est le mois surtout de la visibilité dans un pays avec à sa tête un président ouvertement homophobe. La communauté LGBT défilée hier pour sa marche annuelle à Recife dans le nord-ouest du pays, Arim.
Oui, une fête qui s'est transformée en marche de protestation contre les violences dont les membres de la communauté LGBT sont régulièrement victimes au Brésil. Pas plus tard que vendredi dernier, le travesti SDF Roberto Nascimento da Silva, 32 ans, a été attaqué à Recife par un adolescent de 17 ans qui l'a aspergé d'alcool avant de le brûler. Les brûlures ont touché 40% du corps. Un bras a dû être amputé, c'est à lire dans le journal Folha de São Paulo, qui rappelle que le Brésil effectivement reste le pays avec le taux d'homicide le plus élevé contre les personnes LGBT.
Et c'est une histoire aussi, Arim, qui met en lumière une autre réalité. De plus en plus de Brésiliens appauvris n'ont d'autre choix que de vivre dans la rue.
Oui, un reporter du Washington Post s'est rendu dans un des plus grands campements de fortune autour de la capitale économique São Paulo, un campement composé de réfugiés économiques, comme écrit le journal, victimes de la crise de Covid-19 et qui a laissé des millions de Brésiliens sans emploi. Parmi eux, Zuleide Félix, 67 ans. Cela fait 15 mois qu'elle a perdu son travail en tant qu'employée de la maison. Elle avait été licenciée par son employeur avec l'arrivée du Covid à São Paulo. Depuis, elle vit sous une tente près de l'aéroport de Guarulhos, dans la grande banlieue de São Paulo. Toute sa vie, Zuleide avait connu la précarité, mais jamais à ce point-là, souligne le journal. D'après le Washington Post, la hausse de la pauvreté au Brésil est une conséquence directe de la décision du président Jair Bolsonaro de laisser se propager la pandémie dans le pays et de combattre coûte que coûte toute mesure de restriction sanitaire.
Arim Lipold pour la presse. Merci. De l'autre côté de la frontière, le Pérou, toujours son vainqueur, proclamé officiellement à sa présidentielle. Mais pour une fois, nous allons délaisser l'actualité politique.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Je vous emmène dans la région de Cusco, au sud du pays, en plein cœur de la vallée sacrée des Incas, au pied du Machu Picchu, joyau du tourisme, où bientôt les engins de chantier, ou même plus que bientôt, ces engins de chantier sont entrés en action pour faire sortir de terre le futur aéroport international de Chinchero. Son ouverture est prévue dans 4 ans et c'est peu de dire, évidemment, qu'il suscite une sacrée opposition, Viloen Munoz-Boileau.
Nous sommes à Chinchero, à 3700 mètres d'altitude, au cœur d'une vallée verdoyante dominée par les Andes. Ce matin-là, une centaine de personnes sont réunies sur la place du village, plongées dans la brume. Un groupe de danseurs en tenue traditionnelle se produisent devant une assemblée composée d'hommes d'affaires, d'élus et de représentants locaux. Cette cérémonie est organisée en l'honneur de l'entreprise sud-coréenne qui va superviser les travaux de terrassement en vue de la construction du nouvel aéroport international de Chinchero qui va voir le jour à quelques mètres de là. Hector Kispe, le maire du village, souligne l'importance de ce projet qu'il qualifie historique.
Cela fait plus de 40 ans qu'on attend cet aéroport. Ce projet de nécessité régionale et nationale va nous apporter le progrès et le développement économique.
L'idée de construire un aéroport international à Chinchero remonte aux années 1970. Il s'agissait alors de répondre aux attentes du tourisme de masse et de développer l'économie régionale, l'actuel aéroport de Cusco étant jugé trop petit et trop dangereux. La construction de cette nouvelle structure a été reportée à plusieurs reprises pour des questions de faisabilité. Aujourd'hui, le gouvernement péruvien y voit une opportunité pour relancer le tourisme et éradiquer la pauvreté dans une région particulièrement touchée par la crise économique liée à la pandémie. Mais une partie de la population s'oppose fermement à ce projet qui menace l'environnement et donc l'agriculture, qui constitue pourtant une source de revenus essentielle, surtout en cette période de pandémie où le tourisme est quasi inexistant. Yoni Teyo, agricultrice de 71 ans, vit à Urquijo, à 10 km seulement du futur aéroport. Cette fervente opposante au projet nous accueille dans ses champs de maïs.
Regardez la qualité du grain. Ici, à Urquijo, on produit le meilleur maïs blanc géant de la région. C'est notre patrimoine familial depuis 4 générations. Tout le village se dédie à la culture du maïs. Cela fait vivre environ 300 familles. Ici, vous avez la rivière qui traverse le village et irrigue nos champs de maïs. Cette rivière prend sa source un peu plus haut, à Chinchero, dans le lac du Purai.
Le lac de Piurai, situé à peine 1 km du futur aéroport, est non seulement utilisé par les habitants de la vallée pour leur production agricole, mais il approvisionne aussi 40% des habitants de Cusco en eau potable.
Le projet d'aéroport représente une menace sérieuse pour l'approvisionnement et la qualité de l'eau du lac du Purail.
Pourtant, dès 2015, le gouvernement péruvien a validé l'étude d'impact environnemental censée garantir que l'aéroport n'affectera pas l'environnement. Mais selon Yoni, cette étude est incomplète car elle n'évalue pas les risques de pollution et d'assèchement du lac. Mais ce n'est pas tout. Pour les opposants, ce projet d'aéroport représente aussi une menace pour le patrimoine culturel de la région.
Depuis 2000, avec la perspective de la construction de l'aéroport, on a vu arriver énormément d'investisseurs étrangers. Les habitants leur ont vendu leurs terrains sous la pression. Aujourd'hui, 70% des terrains du village leur appartiennent. Et comme ils ont de l'argent, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Sous ce complexe touristique que vous voyez là-bas, par exemple, il y a un tas de vestiges Inca et pré-Inca. Qu'ont-ils fait? Ils les ont recouverts de béton et ont construit dessus.
Et les retombées économiques promises par les autorités ne sont même pas au rendez-vous puisque les entreprises qui gèrent ces complexes touristiques arrivent avec leurs propres employés et proposent aux touristes des formules tout inclus. Malgré un recours en justice de l'association dont fait partie Yoni et la menace de l'UNESCO de retirer le Machu Picchu de la liste du patrimoine mondial, les travaux de construction de l'aéroport se poursuivent. Wilhelm Nosboilo, de retour de Cusco, RFI.
Avant de sortir de terre donc en 2025, restons en Amérique du Sud tout de suite avec nos confrères de la Première.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Serge Massot.
Bonjour.
Après sa victoire dimanche en Guyane, Gabriel Serville s'apprête à prendre la présidence de la collectivité.
Il a battu Rodolphe Alexandre, le président sortant, avec près de 55% des suffrages exprimés. Dans trois jours, ce sera l'élection du nouveau président de la collectivité territoriale. Et hier, après une courte nuit de sommeil, Gabriel Serville était de retour dans sa permanence parlementaire. Charlie Torres l'a rencontré.
Détendu et pas du tout éprouvé par une nuit de festivité après la victoire. Rentré à 2h, réveillé à 7h pour répondre et gérer les nombreux coups de fil de félicitations et autres. Matinée d'échange aussi avec certains soutiens et connaissances de longue date.
Tu vas bien? Bon, ouais. Si tu tiens, c'est bien, je suis content pour toi.
Oui.
Monique, c'est la voisine d'en face de la permanence.
Oui, de la permanence.
Qui est toujours là à me prodiguer de précieux conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
Ouais. Il ne faut pas croire qu'il faut s'asseoir et puis faire les choses. Hein. Il faut rester en prière.
On est tous une famille dans ce quartier. Ça fait des années qu'on habite tous ensemble. Et j'ai connu Gabriel, ça fait plus de 30 ans. Et ma mère, elle y est pour beaucoup.
Pas de temps mort donc pour Gabriel Serville qui va poursuivre ses rencontres, régler les derniers détails avec les colistiers, gérer certaines formalités administratives et surtout, anticiper et prendre de l'avance sur des dossiers qui lui tiennent à cœur. Maîtrise du foncier, les dotations de la CTG, la démographie, le cadre statutaire et autres. Et cela avant la séance d'investiture de vendredi prochain. Et pour ceux qui en doutent encore, Gabriel Serville sera bien candidat au poste de président et abandonnera donc sa casquette de député.
En Guadeloupe, la CIMAD appelle à un rassemblement demain matin, place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. L'association de soutien aux migrants et demandeurs d'asile dénonce la dématérialisation des démarches administratives. Sans accès à Internet, les personnes étrangères ont le plus grand mal à régulariser leur situation. Déçu, Mario Boccali, le sélectionneur de l'équipe de football de Martinique, après la défaite de l'équipe de France hier soir en 8e de finale de l'Euro. Mais pour lui, la victoire est revenue à l'équipe qui en voulait le plus. Mario Boccali au micro de Manuel Larade.
On est quand même déçus, compte tenu du potentiel de l'équipe. Bon, l'équipe est menée, elle revient au score. Et puis après, je crois qu'il y a une bonne dynamique qui est installée. Et puis, je crois qu'il y a un relâchement dans les 10 dernières minutes qui fait que la Suisse revient. Puis les Suisses gardent toute cette concentration, toute cette arme pour justement aller jusqu'au tir au but. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, qui est le facteur X qui change un petit peu la donne sur ce match-là. La France s'est rebellée. Dans le moment, elle s'est rebellée. Elle a tout de suite couru. Et après, elle est retombée un petit peu dans sa léthargie. Et les Suisses, eux, ont fait le contraire. Et je crois qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Peut-être même dans la séance des tirs au but, on les a trouvés un petit peu plus incisifs aussi, plus décidés. L'équipe qui en voulait plus, qui est passée.
La sélection de la Martinique qui s'envole demain direction les États-Unis pour disputer la Gold Cup. Premier match le 11 juillet, ce sera face au Canada. Bonne journée.
Merci beaucoup Serge Massot, à vous et aux équipes de la Première.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Et c'est ainsi que s'achève notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques du jour, réalisé par Claude Battista. Vous pouvez nous réécouter aussi sur RFI Pure Radio. Très bonne journée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.